Bonsoir à tous. Couvre-feu précaire au Haut-Karabakh depuis la mi-journée. Calme à Stepanakert. Nous serons avec notre correspondant sur place au début de ce journal. La vie nocturne berlinoise a oublié pour quelque temps les bars, les restaurants, tous les magasins sauf les pharmacies et les stations-service ferment à 23h. Reportage. Dans ce journal aussi, la Pologne dans la cour des grands du tennis. Victoire à Roland-Garros d'Iga Świątek, première polonaise titrée dans un tournoi du Grand Chelem. Et puis la météo, averse, vent et neige. Des 1300 mètres, les prévisions de Météo France à la fin de ce journal.
France Inter.
Ils ont vécu toute la journée au rythme des sirènes d'alerte. Les habitants de Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh, cible de bombardements ce matin avant le cessez-le-feu de la mi-journée. Juste le temps de passer un regard inquiet vers le ciel et le calme et déjà de nouvelles sirènes. L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusent mutuellement d'avoir violé ce cessez-le-feu. Écoutez notre correspondant Claude Bruyot dans la région à Erevan.
D'après les témoignages sur place qui nous arrivent jusqu'ici à Erevan, depuis la mi-journée, les tirs ont bien cessé sur Stepanakert. C'est la première fois depuis plus d'une semaine que la capitale du Haut-Karabakh arménien n'est pas bombardée pendant aussi longtemps. Le témoignage sur place du photographe de guerre suisse-roman Guillaume Riquet.
Alors à Stepanakert, il n'y a eu aucune explosion. C'est totalement respecté en apparence. Et en tout cas, moi, j'ai rien vu. Aucune bombe, rien. Il y a certaines échoppes qui se sont ouvertes alors qu'elles étaient fermées. Et ça se voit, on voit plein de gens avec un petit cornet, avec un petit sac, aller faire des courses. Mais clairement, quand on parle avec les gens, ils disent que ça va pas durer. Maintenant, les gens n'ont aucune confiance dans le gouvernement d'Azerbaïdjan. Ça, clairement, aucune confiance.
La question qu'on peut se poser maintenant, si ce cessez-le-feu ne dure pas finalement à Stepanakert, comme c'est à craindre, c'est à qui cette courte trêve aura le plus profité. La nuit dernière, en redescendant le corridor de Latchin, qui relie le Haut-Karabakh au territoire arménien, nous avons croisé des dizaines de camions militaires qui roulaient en direction de Stepanakert, ainsi que des blindés sur des porte-chars, un scénario classique au cours duquel chacun des belligérants se reconstitue en prévision de la suite de la confrontation, qui semble donc ne jamais s'être véritablement arrêtée en certains endroits de la ligne de front. Erevan, Claude Bruyot, France Inter.
Les analystes militaires disent que c'est le plus gros missile mobile à combustion liquide jamais vu à ce jour, exhibé aujourd'hui par la Corée du Nord. Défilé militaire gigantesque pour les 75 ans de la fondation du Parti des Travailleurs. Sans observateurs étrangers, les ambassades sont fermées. Aucun média étranger n'a été invité pour cause de Covid-19. Le dirigeant Kim Jong-un affirme que pas une seule personne n'est atteinte par le virus en Corée du Nord. En Europe, en revanche, chaque pays cherche à endiguer la reprise de l'épidémie. 4000 nouveaux cas en Allemagne, un record depuis début avril. Comme en France, les métropoles serrent la vis, mais là, c'est elle qui décide. Francfort, la première. Depuis hier soir, fermeture des bars et restaurants à 23h, interdiction de vente d'alcool la nuit. Ce matin, Cologne, la capitale de la région la plus peuplée d'Allemagne, lui a emboîté le pas. Et à Berlin, c'est ce soir que la mesure entre en vigueur. Ce n'est pas le moment de faire la fête, dit le maire. À 23h, rideau pour les 1700 bars ou pubs qui restent souvent ouverts toute la nuit. Reportage de Nathalie Versu.
Albrecht Eck, dans le quartier commerçant de Steglitz, ce café traditionnel à la berlinoise sert avant tout de la bière à une clientèle d'habitués et ferme normalement après le départ du dernier client. Le couvre-feu est le principal sujet de conversation entre la patronne et ses habitués. La serveuse a glissé son masque sous le nez, les clients sont sans masque ou le portent sous le menton, tous sont excédés.
Écoute, on respecte toutes les règles, l'obligation d'enregistrer les noms des clients, de porter le masque. J'y peux quoi si les gens viennent se saouler? Rien. Ça ira jusqu'à la faillite ou quoi?
Le couvre-feu? On est à Berlin. Je suis une vraie berlinoise. Il n'y a jamais de couvre-feu ici. C'est quoi ce bazar?
Dans la rue, les passants ne croient pas que l'alcool cessera de couler en soirée à Berlin, comme l'expliquent Younous et Katia.
Les gens sont fatigués, ils n'ont pas envie de ce genre de mesures. Du coup, l'interdiction de vendre de l'alcool n'apportera pas grand-chose. Les gens vont faire la fête chez eux.
Ça sera impossible de contrôler vraiment les choses dans toute la ville. Berlin n'en a tout simplement pas les capacités.
Les cafetiers, eux, crient à leur mort prochaine. Berlin, Nathalie Versieux pour France Inter.
En France, c'est 5 fois plus de nouveaux cas chaque jour par rapport à l'Allemagne. Dans le Loiret, 700 personnes participent aujourd'hui à un rassemblement évangélique, l'association Vie et Lumière qui tient son assemblée générale. On en parle dans le journal de 19h. Pour l'instant, sur France Inter, il est 18h05 quand la réforme du temps de travail travail tourne au pugilat. À Saint-Denis, la troisième plus grande ville d'Île-de-France, plus de 100 000 habitants, un adjoint au maire a été légèrement blessé lors du conseil municipal de jeudi. Hier, assemblée générale des employés de la ville, ils sont mécontents de la réforme du temps de travail voulue par le nouveau maire PS, Mathieu Hanotin. À Saint-Denis, les 3 800 agents municipaux travaillent moins qu'ailleurs. Le maire veut supprimer des jours de congé, calculer la prime annuelle selon l'assiduité, ce qui bien évidemment ne passe pas. Le reportage d'Agera Mohamed de France Bleu Paris.
Avec la nouvelle majorité à la mairie, Hakima s'attendait à du changement, oui, mais pas à ce point-là. Touché à ses jours de congé, à sa prime annuelle de 1 400 €, c'est inconcevable pour cet employé de cantine scolaire.
Mais c'est pas normal, cette prime-là, nous, en fait, on l'attend. Moi, je suis toute seule avec mes enfants, donc quand j'ai la prime, bah, ça me fait du bien, en fait. Venez une journée en office, dans la restauration. À la fin de la journée, vous serez comme ça, vous n'arrivez même pas à marcher.
Et sur place, peu d'agents condamnent l'intrusion de manifestants la veille en plein conseil municipal.
Des syndicats qui entrent dans la mairie pour revendiquer leurs droits, je ne vois pas où est la violence.
Pour Nassim, agent municipal et militant communiste, la mairie a choisi la mauvaise méthode.
Qui veulent faire du changement à Saint-Denis, c'est bien. Mais de là, faire du changement en prenant sur l'argent des agents de la ville, qui travaillent pour cette ville depuis des années, je trouve que c'est dégueulasse.
Brahim Chiki, l'adjoint aux finances en charge de cette réforme, déplore lui une récupération politique.
C'est-à-dire que j'ai un mouvement social qui est chapeauté par d'anciens élus politiques LFI de la France Insoumise, qui descendent dans l'Assemblée délibérante et qui invectivent des élus de la République. Ça, c'est compliqué. Parce que le combat syndical n'est pas le combat politique. Et je pense que là, on joue avec le feu.
L'élu appelle les syndicats Sud et CGT à revenir autour de la table des négociations auxquelles participent déjà Force Ouvrière et la CFDT.
Voilà, et l'affaire n'est pas terminée. Une nouvelle manifestation est prévue mardi devant la mairie de Saint-Denis. Lille, elle, dit non pour l'instant à la 5G. Le conseil municipal a adopté cette nuit un moratoire. Des doutes sur le plan sanitaire et la sobriété numérique. Lille veut attendre le rapport de l'ANSES en 2021. Des milliers de manifestants contre la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes partout en France. Cet après-midi, la Manif pour tous, les associations anti-IVG demandent le retrait du projet de loi bioéthique. À Tours, Limoges ou Valence, des contre-manifestations avaient été organisées. Une semaine après les crues hors normes dans l'arrière-pays niçois, l'électricité a été rétablie dans la quasi-totalité des 15 000 foyers qui en étaient privés. Enedis a fait des réparations d'urgence. Une vingtaine de maisons sont encore privées de courant. Elles ont été équipées ce matin par hélicoptère de groupes électrogènes. Et puis la préfecture a envoyé sur le terrain une douzaine d'équipes d'experts pour inspecter 2 000 bâtiments potentiellement endommagés. Elle est sans doute ce soir une héroïne dans son pays, la Polonaise Iga Świątek, vainqueur de Roland-Garros, première Polonaise à remporter un tournoi du Grand Chelem. Elle s'est facilement débarrassée de l'Américaine Sofia Kenin, 6-4, 6-1. Et à 19 ans, Jean-Pierre Blimeau, elle n'était même pas tête de série.
Oui, c'était l'invitée surprise de la finale, Anaïs. Elle a balayé l'Américaine qui pourtant partait avec une énorme pancarte de favorite dans le dos. 3-0 d'entrée, elle n'a pas tremblé pour empocher la première manche. 6-4, elle a creusé l'écart. 4-1 dans le deuxième set. Elle n'est pas perturbée par l'arrêt du match quand l'Américaine demande l'assistance médicale. Elle conclut 6-1 dans le deuxième set avec le sentiment de force tranquille qui se dégage de ses 19 ans. Elle n'était pas tête de série, elle est assurée de monter à la 17e place mondiale. Elle n'a pas perdu un set de la quinzaine, on n'avait pas vu ça depuis Justine en 2007 dans le tableau féminin. Sous son masque, les yeux pétillants de bonheur, Iga Świątek brandit la coupe remise par Marie Pierce, titrée 20 ans auparavant. Dans les tribunes, elle remercie son père, sa sœur, présents sur le central. Le retentissement va être énorme en Pologne, qui ne comptait que 2 finalistes en Grand Chelem. Des drapeaux polonais blancs et rouges sont brandis sur le central. Hommage pour cette jeune joueuse qui passe de l'ombre à la lumière.
Jean-Pierre Blimeau en direct de Roland-Garros. Et puis victoire française cet après-midi, Elisa Jacquemot, 17 ans, a remporté le tournoi junior. Demain, finale homme, Nadal Djokovic.
La météo avec Bureau Vallée, spécialiste depuis 30 ans en papeterie, fourniture et mobilier de bureau.
Jean-Michel Golinski, Météo France.
Ce dimanche, pour trouver un soleil durable, il faudra se trouver entre le golfe du Lion et l'ouest de la Provence. Mais Mistral et Tramontane vont souffler vers 100 km par heure. Le vent sera également très turbulent sur les Cap Corse et sur les crêtes pyrénéennes. Sinon, globalement, la journée sera rythmée par un régime d'averse avec par moments des coups de tonnerre, en particulier du sud des Alpes à la Corse. La neige va également faire parler d'elle puisqu'elle va tomber à partir de 1300 mètres sur tous les massifs avec des quantités plus fortes qu'ailleurs sur les Pyrénées. Au petit jour, il fera 6 à 8 degrés en général mais seulement 4 dans le nord-est. En journée, en dehors du bassin méditerranéen, les maximales vont s'orienter entre 10 et 15 degrés.